Sherlock Holmes triomphe. Conan Doyle. Traduit par Henri Evy. Charles Auguste Milverton. Voilà des années que ces événements se sont déroulés, et pendant longtemps, il m'eût été impossible de les raconter. Aujourd'hui, l'héroïne n'a plus de compte à rendre à la justice humaine, et je puis, sans inconvénient pour qui que ce soit, les publier, en modifiant bien entendu le nom des personnes et la date exacte des faits, afin de conserver l'incognito des acteurs. On nous verra, M. Sherlock Holmes et moi, sous un jour absolument inconnu. Nous venions de rentrer de promenade, tous les deux vers 6 heures, un soir d'hiver où il gelait à pierre fendre. Holmes allume la lampe et son regard tomba sur une carte placée sur la table. Il l'examina, puis, avec un geste de dégoût, la jeta à terre. Je la ramassai et je lus. Charles Auguste Milverton, Appledore Towers, Hampstead Agent. Qui est-ce ? Demandai-je. Un des hommes les plus infects de Londres, répondit Holmes, en s'asseyant et en allongeant ses jambes devant le feu. Y a-t-il quelque chose d'écrit au dos ? Je retournai la carte et lus. Viendrait 6h30, CAM. C'est à peu près l'heure. Avez-vous ressenti, Watson, une sensation de dégoût indéfinissable lorsque, visitant les serpents au jardin zoologique, vous avez pu examiner ces êtres venimeux avec leurs yeux de cadavre et leur tête aplatie? Eh bien, c'est l'impression que me produit Milverton. J'ai eu dans ma carrière à m'occuper de plus de 500 assassins. Aucun d'eux ne m'a fait éprouver le sentiment de dégoût que je ressens pour cet homme. Pourtant, je ne puis éviter d'avoir des rapports avec lui. Il vient même ici, sur ma demande. Qui est-il donc ? Je vais vous le dire, Watson. C'est le roi des maîtres chanteurs. Que Dieu protège l'homme ou la femme dont le secret et l'honneur sont tombés entre les mains de Milverton. Avec une face souriante et un cœur de marbre, il vous broie, vous presse jusqu'à la dernière goutte. C'est un génie à sa manière, et il aurait pu se faire un nom dans un métier plus honnête. Voici comment il opère. Il annonce qu'il payera très cher des lettres ou des documents pouvant compromettre des gens riches ou d'un rang élevé. Il trouve une clientèle tout indiquée, non seulement parmi les valets ou les femmes de chambre, mais encore parmi certains hommes ignobles qui savent inspirer l'amour à des femmes trop confiantes. Il n'y va pas de main morte. Je sais qu'il a payé une fois 700 livres à un laquais, un mot de 2 lignes qui causa la ruine d'une noble famille. Tout ce qui est à vendre va à Milverton. Et il y a des centaines d'êtres humains dans cette immensité qui pâlissent à son nom. On ne sait quand on sentira son étreinte. Il est si riche et si habile qu'il peut et sait attendre pour agir le moment propice. Il gardera son atout pendant des années pour l'abattre au moment où l'enjeu sera le plus élevé. Je vous ai dit que c'était l'homme le plus abject de Londres. Comment, en effet, pourrait-on comparer un de ces bandits assassinant un homme dans un moment de colère à ce personnage qui, méthodiquement, de sang-froid, torture l'âme, broie les nerfs dans le but de grossir encore des sacs d'or déjà si gonflés? J'avais rarement entendu parler mon ami avec autant de chaleur. « Mais cet individu-là, dis-je, ne tombe-t-il pas sous le coup de la loi ?»« En droit, cela ne fait pas de doute, » dit-il. « Mais en fait, non. Quel intérêt aurait une femme à le faire condamner à plusieurs mois de prison si le résultat devait être sa ruine immédiate. Les victimes n'osent donc pas se plaindre. S'il lui arrivait de s'attaquer à une personne innocente, certes oui, nous pourrions le prendre sur le fait. Mais il est rusé comme le diable en personne. Non, 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 non. C'est sur un autre terrain qu'il faut chercher à le pincer. Pourquoi vient-il ici ? Parce qu'une cliente de la plus haute noblesse, Lady Eva Barkwall, la plus élégante débutante de la dernière saison, a mis sa cause entre nos mains. Elle doit épouser, dans 15 jours, le comte de Dovercourt. Ce démon de Milverton a en sa possession plusieurs lettres imprudentes, écrites par elle à un jeune homme de province sans fortune, qui les lui a vendues. Elles suffiraient à faire rompre le mariage. Milverton doit les envoyer au comte si la jeune fille ne lui verse pas une grosse somme d'argent. Elle m'a donc prié de le voir et, si possible, de traiter l'affaire avec lui. Au même instant, j'entendis un remue-ménage dans la rue. Mettant la tête à la fenêtre, j'aperçus un superbe équipage dont les lanternes se reflétaient sur la robe de deux superbes chevaux alezans. Un valet de pied ouvrit la portière. Et un petit homme obèse, vêtu d'un pardessus d'astrakhan, descendit de voiture. Un instant plus tard, il faisait son entrée dans l'appartement. Charles-Auguste Milverton approchait de la cinquantaine. Il avait une tête large et intelligente, une figure ronde et rasée. Un sourire faux figé sur ses traits. Des yeux gris perçants qui brillaient à travers des lunettes d'or. Dans son aspect, il avait quelque chose de la bienveillance de Mr. Pickwick, que gâtait pourtant le mensonge de son sourire perpétuel et la dureté de son regard. Sa voix était mielleuse et douce, comme sa physionomie. Il s'avança, sa petite main grasse tendue vers nous, et s'excusa de ne pas nous avoir rencontrés lors de sa première visite. Holmes n'eut pas l'air d'apercevoir ce geste et examina le personnage d'un air glacial.